Un ciel bien couvert également sur le quart nord-est avec localement quelques brouillards qui peuvent réduire la visibilité. Et puis plus on va vers le sud en revanche, plus c'est un ciel qui est très lumineux, surtout en Méditerranée, mais au prix d'un nouvel épisode de Mistral Tramontane. Ça va encore souffler jusqu'à 70 km/h avec un risque d'incendie maximal au niveau des Bouches-du-Rhône, donc on reste vigilant. Et puis une petite évolution d'urne classique en fin de journée vers les Alpes du Sud et en direction de la Corse. Pour ce qui est des températures, prévoyez 8 à 13 degrés pour la moitié nord, 10 à 16 degrés plus au sud, et dans l'après-midi, il fera entre 20 et 24 degrés au-dessus de la Seine. Enfin, pour les régions situées au-dessus de la Seine, évidemment, 24 à 30 degrés partout ailleurs et plus de 30 degrés, évidemment, vers le pourtour méditerranéen.
Merci Claire Delorme, RTL, c'est un très bon choix, il est 9h.
RTL Matin avec Antoine Cavallero.
Et voici le journal de Chloé Geffroy. Bonjour Chloé.
Bonjour Antoine, bonjour à tous.
À la une, alerte maximale dans les Bouches-du-Rhône.
Le département de nouveau en vigilance rouge au feu de forêt. Le Mistral et la Tramontane couplés à la chaleur et à la sécheresse inquiètent les autorités. La mise en examen d'une infirmière de l'hôpital de Montreuil soupçonnée d'agression sexuelle sur des nourrissons. Elle dit avoir agi sous l'emprise de son compagnon. On ira à Rome pour la clôture du jubilé. 1 million de jeunes catholiques prête à écouter la messe du pape Léon XIV sur place et l'effervescence. Et puis aux mondiaux de natation de Singapour, Léon Marchand en finale du 400 mètres 4 nages. Qualifié dans la douleur ce matin, le corps commence à fatiguer.
RTL Matin.
Les Bouches-du-Rhône de nouveau sous la menace des départs de feu.
Vigilance rouge dans le département près d'un mois après cet incendie impressionnant aux portes de Marseille qui a provoqué une immense angoisse chez les habitants. Tous les massifs forestiers sont interdits d'accès. Mesures préventives fortes en pleine saison touristique. Reportage de Manon Meilleur dans la cité phocéenne.
Oui, et ici la route d'accès à la Calanque est fermée par une barrière. Quand un petit groupe de vacanciers s'approche, c'est Sylvie, l'une des gardiennes du parc, qui vient les accueillir.
Messieurs, dames, les calanques sont fermées. Risque majeur d'incendie. Désolé.
Alors, ils rebroussent chemin, la mine un peu dépitée. Haïfa, une Parisienne en vacances à Marseille, doit faire une croix sur ses envies de visiter les calanques ce week-end.
C'est notre première fois ici, donc on est déçus. Oui. On voulait découvrir, on voulait voir.
Après, s'ils disent qu'il y a un risque pour la sécurité de qui que ce soit, c'est normal qu'il faut respecter et qu'il faut partir, c'est tout en fait.
Et effectivement, avec la sécheresse, les fortes chaleurs et les rafales de vent à 50 km/h, une simple étincelle peut transformer le massif en véritable brasier. Alors l'objectif, c'est de limiter les risques, vu que 9 feux sur 10 sont d'origine humaine. À Thème, un autre des gardiens du parc le sait bien, il voit des comportements irresponsables tout l'été.
Les gens, ils comprennent pas qu'il faut pas jeter les cigarettes. Et malheureusement, si on passe sur la route, on voit qu'il y a des mégots de partout. Comme il y a du vent, malheureusement, on est obligé de fermer parce que les pompiers, ils sont débordés en ce moment.
Alors aujourd'hui, les gardes du parc ont dû barrer la route à plus d'une centaine de visiteurs. La mesure est globalement bien acceptée parce que ces dernières années, les fermetures des massifs à cause des risques d'incendie se sont banalisées.
Le reportage de Manon Meilleur à Marseille, le sud-est de la France est sous tension. 8 départements sont en vigilance orange, dont la Corse, où 2 départs de feu quasi simultanés ont ravagé hier près de 50 hectares de végétation dans la région du Nebbio. Le procureur de Bastia confirme ce matin avoir ouvert une enquête pour destruction de bois et forêts pour déterminer les circonstances de l'incendie.
Elle est soupçonnée d'agression sexuelle sur des nourrissons.
Et de captation d'images à caractère pédopornographique. Une infirmière de l'hôpital de Montreuil en Seine-Saint-Denis, mise en examen et placée sous contrôle judiciaire. Âgée de 26 ans, la jeune femme s'est elle-même dénoncée au commissariat. Plana Radenovic, elle assure avoir agi sous l'emprise de son compagnon.
Oui, car le magistrat a mis l'ex-compagnon de l'infirmière en examen pour complicité d'agression sexuelle sur mineur par instigation. C'est d'ailleurs conforme au récit de l'infirmière mercredi soir lorsqu'elle pousse la porte du commissariat de Clichy-sous-Bois. D'emblée, elle dit aux policiers avoir agressé sexuellement ses tout petits bébés, mais elle affirme qu'elle était alors pilotée à distance par son compagnon de l'époque. Elle dit qu'elle était sous emprise. Aucun des 2 mis en examen n'a été placé en détention à l'issue, contrairement aux réquisitions du parquet. Ils sont tous les 2 sous contrôle judiciaire avec interdiction d'exercer une profession en lien avec les mineurs. Pour le moment, en effet, l'enquête et l'analyse des vidéos des agressions a permis d'identifier deux petites victimes.
Les précisions de Plana Radenovic du service police-justice de RTL et précisons que le parquet a exclu l'hypothèse selon laquelle la suspecte s'en prenait à des bébés noirs. Accusation qui avait enflammé le réseau social TikTok. Au large de Gravelines, dans le Nord, les recherches en mer se sont interrompues hier soir, là où un enfant d'une dizaine d'années est toujours porté disparu. Deux autres, eux aussi en difficulté dans l'eau, ont pu regagner la plage seule et donner l'alerte avant d'être transporté à l'hôpital.
La France poursuit le largage d'aide humanitaire dans la bande de Gaza.
L'opération a commencé vendredi. Au total, 40 tonnes de vivres doivent être parachutées depuis les airs, des palettes de farine, de sucre ou encore de conserve. Une opération jugée par ailleurs coûteuse et dangereuse par les associations. Les avions vont encore décoller aujourd'hui dans le désert jordanien. Et vous êtes l'un des rares, Emmanuel Michet, à avoir pu participer à l'une de ces opérations aux côtés de l'armée française.
Il est 6h du matin sur la base aérienne militaire Prince Hassan, au nord de la Jordanie. C'est ici que des soldats français s'apprêtent à décoller pour survoler Gaza. Ils font partie du 1er régiment de trains parachutistes spécialistes dans les largages de matériel. À bord de leur avion, un C-130, 4 grosses palettes remplies de denrées alimentaires, principalement de la farine et du lait en poudre. Le sergent-chef Fessal vérifie une dernière fois les parachutes accrochés à chaque colis.
On va décoller. Vu l'avion, il va prendre une assiette de cabrage, donc il va s'incliner à peu près 7 degrés, ce qui va permettre à la charge de elle glisser sur les chemins de roulement et de sortir de l'avion.
Le pilote, le commandant Pierrick, a été briefé ce matin sur les lieux de largage à viser dans la bande de Gaza.
Ici, un environnement très urbain, ce qui est quelque chose qui n'est pas commun pour faire des livraisons par air, l'appellation que nous avons pour ce type de largage humanitaire. Mais il faut savoir que les références, par exemple, en milieu urbain, vont être assez compliquées à avoir, puisque tous les bâtiments vont beaucoup se ressembler, la proximité d'autres zones peut rendre le largage, l'acquisition visuelle compliquée.
Une heure de vol, puis nous passons à basse altitude, à 600 mètres de hauteur. À travers les hublots, nous voyons des villes dévastées, un champ de ruines. Nous distinguons en bord de mer des centaines de tentes où les Gazaouis sont venus se réfugier. Nous sommes au-dessus de Zaweida, dans le centre de l'enclave. La porte arrière de l'avion s'ouvre, les palettes sont larguées. Leurs parachutes se déploient, elles tombent vers le sol. La même opération sera répétée dans les jours qui viennent. 40 tonnes seront en tout parachutées.
Emmanuel Michel, envoyé spécial M6-RTL avec l'armée française en Jordanie. Un squelette vivant, enterré vivant. Les mots de la famille d'un otage israélien à Gaza après la publication d'une nouvelle vidéo du Hamas où l'on voit le jeune homme très amaigri et peinant à se tenir debout dans un tunnel de l'enclave palestinienne. Dans un message publié sur X, Jean-Noël Barrot, le ministre des Affaires étrangères, dénonce des images ignobles et insupportables.
Le jubilé de la jeunesse à Rome prend fin aujourd'hui, la messe de clôture doit débuter d'ici quelques minutes.
En présence du pape Léon XIV, coqueluche des jeunes, et accueilli hier soir en rockstar à bord de son hélicoptère. Son nom, Papa Léon, est scandé par 800 000 fidèles de longues minutes lors de la veillée. Pauline, 27 ans, y a participé et elle a passé la nuit à la Belle Étoile.
Très impressionnée par la ferveur de la foule. Voilà, vraiment, ça criait, ça l'acclamait. C'était très beau de voir cette joie et de ressentir cette joie. Il y en a qui ont prié toute la soirée. Moi, j'ai tenté de dormir un petit peu. Ça a été très haché. C'était ça aussi qui était beau, c'est que d'où qu'on vienne... On était sous les étoiles.
Les yeux tirent peut-être un peu ce matin, mais la messe va commencer dans quelques minutes. Comment vous vous sentez ?
Je suis dans la joie. La messe, c'est le cœur de notre vie spirituelle. Et donc, de partager ce moment, c'est vraiment important pour les chrétiens du monde. On a hâte d'entendre que le pape Léon aura à nous dire aujourd'hui encore...
Propos recueillis par Hermine Leclèche.
Dernière journée des mondiaux de natation à Singapour et on retrouve un autre Léon, pape lui de la natation.
La France espère deux médailles cet après-midi avec le relais 4x100 4 nages, mais aussi et surtout avec Léon Marchand sur le 400 mètres 4 nages. Ce matin, le quadruple champion olympique s'est fait une frayeur. Il s'est qualifié de justesse pour la finale avec le 7e temps.
J'étais un peu dans le dur. Bizarre parce que j'ai bien dormi, je me sentais bien ce matin. Mais voilà, c'est la natation, donc carrément tu te plonges et tu te sens pas bien. Au final ça passe. Les centièmes étaient de mon côté, donc j'ai eu la chance ce matin. Donc oui, ça m'inquiète, après j'ai une ligne ce soir. J'essaie de faire ma course, de pas trop regarder à côté. Je pourrais pas me cacher, il va falloir y aller dès le début.
Elles sont lourdes les jambes là?
Ouais, pas que les jambes, tout. Un peu tout. Puis 400 mètres 4 nages le dernier jour, c'est une des premières fois que je fais ça. Donc ouais, c'est pas facile. Je vais essayer de récupérer au maximum, faire une bonne sieste et on verra cet après-midi.
Léon Marchand au micro d'Isabelle Langer, notre envoyée spéciale aux Mondiaux de natation à Singapour. La dernière étape du Tour de France femme se conclut aujourd'hui en Haute-Savoie, 124 km entre Praz-sur-Arly et Châtel, dernière étape de montagne, et une victoire à portée de main pour la Française Pauline Ferrand-Prévot, la championne olympique de VTT il y a un an au JO de Paris, a endossé le maillot jaune hier dans les Alpes, victoire impériale et quelques larmes.
On a hâte de suivre ce succès annoncé. Il est 9h10 sur RTL, le Festival Interceltique de l'Orient aux couleurs de l'Amérique.
Ça a commencé vendredi et le Morbihan va vivre au rythme des cornemuses encore jusqu'à dimanche prochain. Comme chaque année, le festival Le Fil pour les intimes met à l'honneur un pays autour des États-Unis, dans un contexte pour le moins particulier. Donald Trump, son outrance et ses droits de douane, mais les organisateurs assument ce choix qui ne s'est pas fait à la dernière minute, Charles Guyard.
Alors même que l'édition 2024 n'était pas encore terminée, le thème des interceltiques de cet été était déjà décidé, l'Amérique. Un choix qui se voulait alors être une ouverture sur le monde, sauf qu'entre-temps, le monde, selon Donald Trump, s'est singulièrement refermé. Résultat, au festival, on s'est interrogé, faut-il revoir sa copie ? Jean-Philippe Moras, le directeur.
On s'est posé très rapidement la question. Il y a eu des petites périodes, l'automne, par rapport à nos différents interlocuteurs aux États-Unis, au Canada, avec des doutes. Ça a surtout constitué une difficulté économique, puisqu'il y a une notion de visa qui a augmenté. Mais après, chaque État a pu rajouter ce qu'il fallait pour permettre aux artistes d'être présents à l'Orient.
Aucun groupe américain n'a donc dû renoncer, dont le Bagad de New York, c'est le seul des États-Unis. Et pour son peine sonneur, Alex, jouer de la musique bretonne outre-Atlantique, c'est surtout diffuser un message d'universalité plus qu'essentiel aujourd'hui.
Et maintenant, avec quelques problèmes dans les États-Unis et dans le monde, c'est très important pour les arts et la musique que nous jouons. La musique traverse tous les États et toutes les nations et n'a pas de frontières.
Et ce qui n'a pas de frontières, c'est aussi ce jingle venu enrichir le répertoire du Bagad de New York. Je vous laisse apprécier.
Vous l'avez, Antoine, évidemment.
On l'adore. C'était la mission de Charles Guyard de faire jouer au Bagad de New York les trompettes RTL. Bravo à lui. Et merci à vous, Chloé Geffroy. Retour de l'information à 10h, ce ne sera pas avec vous, ce sera avec Victor Pourchet. Toute l'actualité à disposition sur RTL.fr. Les courses, le Quintet, c'est à Deauville, départ 15h15. Alexandre De Koopman vous conseille de jouer le 2, le 3, le 4, le 16, le 14, le 15, le 9. L'outsider de RTL, c'est le numéro 16. Un message de Christiane. J'ai quitté la Lorraine à 13 degrés. Elle est arrivée dans le Roussillon, 23 degrés. Elle ne regrette pas du tout. Le résultat du grand jeu du dimanche. Nous avons une possible gagnante. Bonjour Isabelle.
Bonjour Antoine.
Vous nous appelez d'où ?
De Wessel, côté de Rouen, en Seine-Maritime.
Très bien. On voit. Vous faites quoi dans la vie ?
Alors, je travaille dans un restaurant de collectivité en cuisine.
Très bien, vous êtes une cuisinière avertie.
Voilà.
Alors, la prochaine question, c'est allez-vous remporter un week-end avec le boat pour 4 personnes ? Vous savez, des bateaux sans permis qui sont très faciles à conduire. Vous avez 18 destinations au choix. On jouait, nous, ce matin avec le département de Lyon qu'on a visité. Vous avez dû suivre la balade, j'espère que vous avez apprécié. On cherche 3 artistes. Oui. Un chanteur qui aime les grands fauves. Et tu sais, Isabelle, on vous écoute.
Yannick Noah ?
Évidemment. Une star américaine qui a Lyon dans son prénom. Je suis désolé, Isabelle. Ce n'est pas de ma faute, c'est Jean-Sébastien Petit-Demange. Mais
oui,
vous l'avez.
Oui, Lionel Richie.
Évidemment, Lionel Richie.
Lionel.
Un artiste qui aime les comparaisons. Une artiste.
Auxerre, c'est pas Memphis. Angèle, c'est pas Hendrix.
Isabelle, c'est à vous.
France Gall.
Et bravo, voilà. Isabelle.
Merci.
C'est pour vous, le gros lot. Un week-end avec le boat, vous partez avec qui ?
Avec mon chéri, puis ma fille, certainement. Et en plus, aujourd'hui, c'est mon anniversaire.
Mais non, c'est pas
vrai.
Oui, oh c'est ton anniversaire.
Joyeux anniversaire, Isabelle, de la part de toute la rédaction de RTL,
merci,
évidemment.
Merci.
Bah, alors là, c'est double cadeau, bravo.
Ah, oui,
on va peut-être chercher quand même une montre RTL, parce que c'est pas tous les jours qu'on a une gagnante de jeu qui,
en plus, le même jour que Vincent Perrault. Vincent Perrault est né le 3 août aussi.
Et vous faites bien de nous le rappeler. On l'avait presque oublié, Vincent Perrault. Merci beaucoup, Isabelle. Franchement, c'est formidable de vous gâter comme ça le jour de votre anniversaire.
Bah oui, c'est chouette. Ouais, franchement, merci. Merci RTL.
Merci d'avoir joué avec nous. Merci de votre fidélité. On vous souhaite une très bonne journée. On remercie aussi notre reporter fil rouge, Flora Granchette, en direct ce matin de Joigny dans Lyon. C'était la destination du jour. Avec Claire Delorme, avec Jean-Sébastien Petit-Demange, on vous dit au week-end prochain.
Absolument.
Et un bon dimanche.
Et un bon dimanche tout le monde. Merci pour tout. On se quitte en musique. Eric Gales avec Joe Bonemassa. Car oui, on découvre des artistes, des choses sur RTL. La suite, c'est Ça va beaucoup mieux, Flavie Flamand, Jimmy Mohamed. Bon dimanche à tous.
Sur RTL avec Antoine Cavallero. On en parle.
Cela fait 135 ans que l'Institut Pasteur œuvre pour un monde en meilleure santé. On en parle avec Frédéric Grosjean, responsable du service des legs. Bonjour Frédéric.
Bonjour.
Pouvez-vous nous rappeler comment l'Institut est né ?
Eh bien, c'est Louis Pasteur lui-même qui l'a créé en 1887 en s'appuyant sur une souscription internationale. Aujourd'hui encore, il continue à se développer grâce aux legs, aux assurances vie et donations de nos bienfaiteurs.
Alors justement, comment doit-on s'y prendre pour faire un leg ?
Eh bien, c'est très simple. Le testament peut être rédigé sur papier libre et remis à son notaire.
Ouais.
Dans tous les cas, le leg permet de transmettre sans droit de succession la totalité ou une partie de ses biens à l'Institut Pasteur.
Et j'imagine que ces legs sont importants pour vous.
Ils sont absolument déterminants.
Ouais.
Ils permettent de sécuriser les recherches et d'accélérer nos découvertes. Vous savez, c'est la générosité de nos testateurs et puis bien évidemment le talent de nos chercheurs qui vont assurer aux générations futures un monde en meilleure santé.
Très bien, merci.
On en parle. Pour en savoir plus, appelez le 0805 215 216. Appel gratuit.
Le meilleur dans Refait la télé.
Avec Jade et Eric Dussard.
Sur RTL, on refait la télé, même l'été. On se retrouve tout à l'heure à 19h pour nos meilleurs moments de l'année avec
Sheila, Michel Fugain et Michel Bernier.
Alors à tout à l'heure.
RTL vous accompagne tout l'été.
RTL, la bande-son de votre été.
9h15, 10h.
Ça va beaucoup mieux sur RTL avec Flavie Flamand et le docteur Jimmy Mohamed.
Bonjour à toutes et à tous. Ah, ce petit brin de vacances.
Ça
ce petit
plaisir.
Air de farniente. Il y en a qui travaillent aussi.
C'est vrai, vous avez raison.
Jimmy. Et on les remercie d'ailleurs de nous écouter.
Et on va les accompagner.
Et on va les accompagner en ce matin sur RTL avec. Alors, je dis toujours que c'est un peu quoi ? C'est le meilleur du meilleur. C'est
la crème de la crème, le meilleur du meilleur,
le best du best. De Ça va beaucoup mieux. On voudrait vous remercier pour votre fidélité. On vous accompagne tout l'été. C'est parti, docteur ?
Allez, c'est parti !
Nous allons plonger au cœur de l'organe le plus complexe et fascinant du corps humain, j'ai nommé le cerveau. Comment ce chef d'orchestre de nos pensées, de nos émotions et de nos actions fonctionne-t-il au quotidien ? Existe-t-il des différences notables entre le cerveau des hommes et des femmes ? Tiens donc, c'est notre dossier de la semaine.
Elle est composée de légumes frais, d'herbes aromatiques, de pain grillé. Oui, on parle de salade, la salade fatouche. Une salade d'origine libanaise, délicieuse et très bonne pour la santé. C'est notre aliment de la semaine.
Et puis la consommation de mélatonine pour aider à l'endormissement s'est banalisée ces dernières années. Mais cette hormone est-elle vraiment sans danger pour la santé ? C'est le vrai du faux de cette semaine.
Ça va beaucoup mieux sur RTL.
C'est Romain qui vous a envoyé un mail à santé@rtl.fr. À partir de quel âge faut-il dépister le diabète ? Est-ce que manger sucré rend forcément diabétique ? Alors, c'est vrai que la seule façon de savoir si on est diabétique, c'est de faire un dépistage avec une prise de sang, c'est ça ?
Oui, exactement. On va doser ce qu'on appelle la glycémie à jeun, c'est-à-dire le taux de sucre. Et lorsque le taux de sucre est trop élevé le matin à jeun, eh bien, on va considérer que vous êtes diabétique. Ne retenez pas le seuil, mais c'est 1,26 g. On a un seuil à partir duquel on sait que vous êtes diabétique ou pas. Le problème, c'est que c'est une maladie silencieuse. Donc en fait, vous pouvez avoir 1,5 g, 2 grammes de sucre dans le sang, n'avoir aucun symptôme et pourtant développer toutes les complications du diabète. Parce qu'en réalité, c'est pas qu'une maladie du sucre, c'est une maladie qui touche le cerveau, les reins, les yeux, le cœur, la peau, les artères. Donc c'est une maladie chronique qu'on veut éviter et puis surtout qu'on veut traiter correctement.
Mais qu'est-ce qui prédispose au diabète ? On parlera de l'alimentation après, mais est-ce que ça peut être aussi des antécédents familiaux ?
Oui, il y a souvent, on sait qu'il y a une injustice dans la vie, on n'est pas tous égaux face à la maladie et le diabète n'y échappe pas. Plus il y a de personnes dans votre famille qui est diabétique, plus vous avez une probabilité élevée de développer à votre tour un diabète. Alors, il y a 2 types de diabète, bon, enfin il y en a plus que ça, mais on retient le type 1 qui est lié à l'insuline qui n'est plus du tout produite par le pancréas, c'est une maladie auto-immune qu'on découvre dans l'enfance. Et puis le diabète de type 2, qui est une maladie qui apparaît vers 40-50 ans, qui est liée à notre mode de vie, la sédentarité, les antécédents dans la famille, mais on a le surpoids, l'obésité, le fait de fumer. Fumer rend diabétique de type 2, c'est peu connu. Et puis les maladies cardiovasculaires.
D'accord. Et à partir de quel âge on doit faire cet examen, puisque Romain nous le demande ?
À partir de 45 ans. Si vous avez un antécédent notamment dans la famille, si vous êtes en surpoids, si vous faites du cholestérol, si vous avez de l'hypertension artérielle, si vous avez l'un de ces signes, eh bien il faudra dans ces cas-là doser votre taux de sucre le matin à jeun. Mais très souvent, en réalité, quand on va voir son médecin pour un petit bilan, en règle générale, le médecin fait ce dosage de la glycémie. Et puis parfois, on peut faire une recherche de la glycémie, le taux de sucre sur les 3 derniers mois. Ça peut être un peu plus fiable qu'une seule fois. Donc si une fois vous avez une valeur qui n'est pas terrible, bon, il faudra recontrôler. Sinon, votre médecin vous prescrira cet examen complémentaire.
Romain parle de manger sucré qui pourrait rendre diabétique, c'est vrai ?
Non, le sucre ne rend pas diabétique, mais après on parle de plusieurs types de sucre. Si vous mangez des fruits et des légumes, de temps en temps vous faites plaisir, vous ne serez pas diabétique pour autant. En revanche, on sait que tous les sucres rapides, les produits gras, les produits ultra transformés, la viande rouge, augmentent le risque de devenir diabétique. Je ne dis pas que vous serez diabétique, mais on augmente ce risque. À l'inverse, on sait qu'il y a 5 familles d'aliments qui protège du diabète. La première, c'est les aliments riches en fibres. On en parle régulièrement, les légumineuses, les haricots, les lentilles, les pois chiches, parce qu'ils limitent l'absorption du taux de sucre, du sucre, et donc forcément, on limite le risque de diabète. Les protéines, très importantes, qu'on va trouver dans les œufs, dans le poisson, ça limite les pics de glycémie. Favoriser les bonnes graisses, qui contiennent des oléagineux, des oméga-3, qui là encore améliorent la sensibilité à l'insuline. N'oubliez pas les antioxydants, thé, café, cacao, les fruits rouges, et puis les produits fermentés. Mais plus vous consommez d'aliments fermentés, donc ça peut être le kéfir, certains yaourts fermentés, la soupe miso, et bien ces aliments protègent votre microbiote qui vous protège en retour du diabète.
Eh bien formidable, on est ravis de répondre à vos questions, Romain.
Posez vos questions par mail à Flavie Flamand et au docteur Jimmy Mohamed
à l'adresse santé@rtl.fr.
Docteur, il va falloir vous pencher sur les nuits de Chloé, parce que Chloé, elle rêve souvent de tueurs à gages, depuis une semaine en tout cas, au point que cette nuit, j'ai fini par mourir, nous écrit-elle. La sensation réveil était étrange, voire pesante. Cependant, je suis en droit et mon examen de la semaine prochaine est sur la complicité et tout ce qui va avec. Alors, est-ce que j'ai fait un amalgame de tout ou bien mon subconscient qui essaie de me dire quelque chose ? Merci pour votre réponse. Alors, c'est normal de faire des cauchemars ou pas,
docteur ? Oui, complètement, et on en fait très souvent chez les enfants. Les enfants font des cauchemars.
Mais oui, on les récupère en larmes la nuit.
Exactement. Donc c'est un processus qui est normal et naturel du sommeil. On va le faire en particulier dans une phase qu'on appelle le sommeil paradoxal. En fait, c'est un sommeil durant lequel vous êtes immobile, vous ne bougez pas, puisque si vous pouvez bouger et que vous vivez vos rêves, ça peut être très dangereux. Vous avez une activité électrique du cerveau qui est très intense et les yeux qui bougent un peu dans tous les sens. Et c'est durant cette phase qu'on va faire des cauchemars. Alors les cauchemars, c'est normal d'en faire, mais parfois ils peuvent être favorisés, liés à un stress, de l'anxiété, des émotions qu'on a pu refouler, et puis certains traumatismes. Donc oui, faire des cauchemars de temps en temps, mais attention, parfois quand c'est trop récidivant, c'est peut-être à l'origine d'autre chose.
D'accord, ce qu'on appelle aussi les cauchemars récurrents, donc là ça vaut le coup de se pencher dessus. À quoi ça sert en fait de rêver et de faire des cauchemars ? Enfin, rêver, on a une idée, ça nous rend super heureux, mais...
C'est vrai que ça nous rend heureux, mais c'est un processus qui est obligatoire. On a montré d'ailleurs, vous avez remarqué peut-être un jour, des personnes dépendantes à l'alcool, qui ont des complications de l'alcool et qui ont des hallucinations.
D'accord.
Et qui se mettent à voir des gens autour d'eux.
Des éléphants roses.
Ils voient n'importe quoi, parfois même des monstres. En réalité, lorsque vous consommez de l'alcool, vous ne faites plus de sommeil paradoxal et donc vous ne rêvez plus. Sauf que le rêve et le cauchemar est indispensable au cerveau. Donc qu'est-ce qui se passe chez les patients qui sont dépendants à l'alcool et qui ont trop consommé d'alcool ? Eh bien le cerveau les oblige à rêver en étant éveillés. Et donc ils se mettent à avoir des hallucinations la journée puisque les rêves et les cauchemars sont obligatoires au processus du sommeil. Donc ça permet entre autres de réguler les émotions. C'est ce qui permet de digérer les émotions, qu'elles soient négatives ou positives durant la journée. On a tous fait l'expérience. on se couche le soir, on est mauvaise humeur, ça va pas bien, on s'est engueulé. Et puis le lendemain matin, ça va un peu mieux, puisque la nuit permet de digérer les émotions.
Voilà, et puis de digérer aussi parfois ce qu'on a emmagasiné, effectivement, dans la journée. On va mélanger des émotions à des images qu'on aura pu voir à la télévision. On s'inquiète quand on a des cauchemars récurrents?
Oui,
enfin, des rêves.
Ouais, les rêves, c'est plutôt bon signe. Et d'ailleurs, on rêve tous, même si on n'a pas forcément la perception du rêve. En revanche, si vous avez ces cauchemars et qu'en plus, vous vous rendez compte qu'il y a un stress très important, et c'est le cas notamment de Chloé, qui est peut-être en train de stresser à cause de ses examens, peut-être qu'il faut évacuer ce stress et il faut en parler. Même chose si vous avez eu un événement traumatisant. Il faut se dire que état de stress post-traumatique et cauchemar, ça nécessite une consultation. Et puis même chose si vous êtes atteint de dépression. On a montré que chez les patients dépressifs, le fait de faire des cauchemars et d'avoir un sommeil qui est perturbé, c'est plutôt un facteur de mauvais pronostic qui amène une consultation rapide. Donc dans ces situations-là, consultez. Pour le reste, il est normal de faire des cauchemars.
Voilà, et puis justement, on parle de sommeil, mais tout à l'heure, on parlera de la mélatonine. Ce sera le vrai du faux de la semaine. Et puis, on va parler de la salade de fatouche. C'est la salade libanaise. Vous en avez apporté ce matin? Vous m'avez fait une petite fatouche?
Vous avez une petite salade fatouche du matin.
Ah, vous charriez quand même, docteur.
Promis, je vous avais une petite salade la prochaine fois.
Moi, je veux ma petite fatouche la semaine prochaine. Voilà, et puis surtout, dans un instant, on va passer sous notre boîte crânienne. On va s'intéresser à notre cerveau avec notre invitée qui est neuropsychologue. C'est Sylvie Chocron. On se retrouve dans un instant, Doc.
À tout de suite.
À tout de suite.
Jimmy Mohamed,
Flavie Flamand,
ça va beaucoup mieux sur RTL.
Et si vous faisiez halte au bord de l'étang de Thau, véritable lagune près de Sète, à la terrasse du Saint-Barth à Marseillan, offrez-vous un plateau de fruits de mer accompagné d'un verre de Listel. Listel, frais, délicat, un vin gris venu du sud. À l'horizon, son terroir, riche de soleil et de vent marin, baigné par une étendue d'eau azur. Listel, les saveurs de Méditerranée depuis 140 ans. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool.
Besoin de faire le plein d'énergie? EDF vous a concocté le jus de l'été. Alors, je prends un service client haut de gamme, j'ajoute des kilowattheures pour la puissance, j'enlève quelques euros pour la légèreté, je mélange, et voilà, c'est plein d'énergie.
En ce moment, profitez de jusqu'à moins 6% sur le kilowattheure hors taxe par rapport au tarif réglementé avec une qualité de service numéro 1 du secteur. Études Bearing Point et Kantar, catégorie entreprise de service. Infos et conditions sur edf.fr/nos offres. L'énergie est notre avenir, économisons-la.
Merci pour votre fidélité.
Bonjour RTL, vous m'accompagnez toute la journée. Quel plaisir de vous écouter.
Profitez de chaque instant, rechargez vos batteries et prenez soin de vous. Je vous souhaite un été lumineux et ressourçant.
Alors, un bel été à tous avec RTL à nos côtés, évidemment.
On est bien sur RTL. Flavie Flamand, Jimmy Mohamed.
Ça va beaucoup mieux.
Jusqu'à 10h sur RTL.
Vous commencez déjà à vous sentir mieux? Ben c'est normal, vous écoutez tout simplement, ça va beaucoup mieux. Votre magazine santé, bien-être du samedi matin sur RTL. Et c'est l'heure de notre dossier de la semaine. Toujours en votre compagnie, Jimmy Mohamed, mais pas que.
Évidemment, nous sommes ravis d'accueillir Sylvie Chocron, neuropsychologue et directrice de recherche au CNRS et à l'Université de Paris. Vous êtes l'autrice de cet excellent livre, Plonger dans votre cerveau, aux éditions Les Presses de la Cité. Bonjour Sylvie.
Bonjour à tous les deux.
Alors avec vous, on va décortiquer certaines idées reçues autour du cerveau pour mieux apprendre à le comprendre. C'est vrai qu'avec Flavie, on a beaucoup de plaisir à produire cette émission. Mais l'idée derrière ça, c'est que peut-être qu'elle et moi, on est sur la même longueur d'onde. Mais est-ce que vraiment on peut être sur la même longueur d'onde?
Ah, est-ce qu'on a des cerveaux qui se correspondent? Vous savez que ça, c'est magique. Depuis quelques années, en fait, on peut enregistrer l'activité cérébrale de deux cerveaux en même temps, ce qu'on ne pouvait pas faire avant. Avant, on pouvait mettre un sujet dans une IRM et enregistrer l'activité pendant une tâche donnée. Maintenant, on peut mettre deux sujets simultanément, donc chacun dans leur IRM, et les faire interagir. Et du coup, qu'est-ce qu'on a découvert? Que effectivement, cette expression qu'on utilise qui est être sur la même longueur d'onde, ça recouvre une réalité. C'est-à-dire que quand deux cerveaux sont en train d'interagir, donc imaginez là, on est en train de discuter, vous me parlez, je vous réponds. Pendant que je vous écoute et que je prépare ma réponse, mon activité électrique est en train de s'aligner sur la vôtre. Et on est véritablement en train d'être sur la même longueur d'onde. C'est-à-dire que la personne qui écoute est en train de préparer ce que la personne qui parle va dire, elle est en train d'anticiper, et les deux activités électriques sont en train de se recouvrir. Et ça, on observe ça dans les relations parents-enfants, dans les relations amicales, mais pas que.
Alors, dans l'amour aussi, c'est ça ?
Dans l'amour aussi.
Je suis trop contente d'avoir l'amour, mais alors, pas
l'amour,
que.
L'amour, c'est le côté positif. Plus la relation est de bonne qualité, oui, plus on a cette sensation de se comprendre même sans parler, ouais, d'être véritablement sur la même longueur d'onde. Mais les spécialistes de ça, ce sont aussi les leaders politiques,
ah, bah,
ou
bah,
les gourous. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils ont appris à moduler leur voix, la hauteur de leur voix, le débit de leurs paroles, pour synchroniser un maximum de cerveau sur ce qu'ils sont en train de dire. Et donc, du coup, il y a des professionnels de la synchronisation cérébrale. Mais ça se passe aussi, par exemple, quand on est tous à un concert.
Ouais,
tous les cerveaux vont
communion.
Se synchroniser, exactement. Donc, quand vous avez l'impression qu'il y a une communion, qu'il y a une très bonne relation, qu'il y a un phénomène de résonance, c'est pas une impression, c'est que les cerveaux sont alignés.
Mais, à contrario, parfois, ça ne se passe pas bien du tout et on a beau faire tous les efforts de la Terre, la personne qui est en face de nous nous paraît parfaitement étrangère. Il peut y avoir des cerveaux qui sont incompatibles.
Exactement. Alors, je dirais pas incompatibles, mais il y a des cerveaux avec lesquels cette synchronisation ne se fait pas.
L'amitié. On parle de l'amour, vous nous avez parlé de l'amour parental, vous nous parlez de l'amour entre deux personnes et l'amitié, par exemple. Nous, ça fait, avec Jimmy, ça fait quoi, deux saisons. Qu'on travaille ensemble. Et maintenant, on est véritablement dans une sorte de... Je commence à parler, Jimmy termine sa phrase. Si Jimmy me demande quelque chose, je vais tout faire pour pouvoir accéder à sa demande. Je pense que la réciproque est vraie. C'est une relation, on peut le dire, assez idéale.
Complètement.
Et très agréable. Mais ça se construit au fil du temps, ça. Même
exactement.
Si nous, ça a matché tout de suite.
Exactement. Alors déjà, dans votre cerveau, vous avez des régions qui sont impliquées dans le sentiment affectif, que ce soit l'amitié ou l'amour. Mmh. Et vous savez qu'on dit que l'être humain, c'est un être social. Mmh. Et au fur et à mesure où l'être humain est devenu de plus en plus social, son cortex frontal, qui est à l'avant du cerveau, s'est développé. Et on sait maintenant qu'on est capable d'établir un certain nombre de relations. Mais attention, les réseaux sont venus un petit peu bousculer tout ça. C'est-à-dire, les gens ont l'impression qu'ils peuvent avoir des centaines, des milliers d'amis, que leur communauté de followers se sont comme des amis, pas du tout. Mmh. En fait, avoir des amis, c'est coûteux, parce que vous imaginez bien que, d'un point de vue cognitif, vous n'allez pas mélanger ce que Jimmy vous a dit, ce qu'il vous a raconté, son dernier souci, avec le souci de votre voisin que vous avez croisé ce matin dans votre immeuble. Mmh. Donc ça demande d'avoir de l'attention, de comprendre le problème de l'autre, de se mettre à sa place, de garder ça en mémoire, d'essayer de trouver une solution. Donc avoir des amis, c'est une tâche éminemment cognitive, et on sait que les enfants peuvent à peu vont apprendre à avoir des amis et à se comporter bien avec eux. Et qu'est-ce que c'est finalement qu'avoir des amis ? C'est effectivement être capable d'utiliser toutes nos capacités cognitives, comme vous l'avez dit, pour pouvoir leur rendre service, s'occuper d'eux. Et donc, on considère qu'avant que quelqu'un devienne véritablement un ami et qu'on puisse tout faire pour lui, il faut passer temps avec lui. Et les enfants considèrent, par contre, qu'avoir des amis, c'est avoir des gens avec qui on va pouvoir partager des secrets, ce qui est une jolie définition de l'amitié.
C'est vrai, c'est très juste.
Dans votre livre, il est question aussi de l'attraction physique. On a tous peut-être eu cette phrase un jour, qu'est-ce qu'elle est belle ou qu'est-ce qu'il est beau. Et puis la personne à côté de nous dit, bof, je trouve pas grand-chose.
Oui, c'est vrai.
En fait, vous expliquez que c'est une histoire hormonale, l'attraction.
Oui, tout à fait. Alors en fait, on est un peu déterminé, non seulement par les hormones de la personne qu'on est en train de regarder, mais par les nôtres aussi. Alors je vous donne un exemple. Il y a une expérience qui a été faite où on a demandé à des femmes, sur la base de simples photos, de choisir qui serait vraiment le compagnon de toute leur vie, l'homme fidèle, fiable, etc. Ou qui serait celui avec lequel elle ferait des enfants, ou qui serait celui qui serait un bon partenaire pour la prochaine nuit à venir. Et donc, du coup, on s'est rendu compte que le choix des femmes était déterminé par le niveau de testostérone des hommes dont elles regardaient les photos. C'est-à-dire que réellement, notre cerveau a un détecteur de niveau de testostérone de l'homme en face de nous, qui nous permet de savoir si ça va être quelqu'un de fiable, fidèle, ou si ça va être au contraire quelqu'un d'un petit peu volage. Et donc le degré d'attraction physique ou d'attraction, au contraire plutôt affective, va être déterminée par ça. Mais il n'y a pas que les hormones de l'homme qu'on est en train de regarder, il y a aussi les hormones de la femme qui regarde. Et donc il y a une expérience qui a été assez discutée, où des chercheurs américains ont essayé de montrer que Barack Obama avait été élu par des femmes en âge encore d'ovuler, donc pas encore ménopausée, donc des femmes jeunes, qui étaient à leur pic d'ovulation. Et donc l'hypothèse, mais je vous assure, l'hypothèse, c'est que en pleine ovulation, les femmes seraient attirées par des hommes très séduisants, et que finalement, les femmes étaient guidées par les hormones, de là à dire qu'il fallait leur enlever le droit de vote, il n'y avait pas loin. Et donc, en fait, heureusement, cette étude a été contredite, mais le fait est que le niveau hormonal de la femme à chaque moment de son cycle influence les jugements qu'elle a par rapport à l'attractivité des hommes en face d'elle.
Extraordinaire. Bon, et puis tout le monde est en train de se dire ah oui, mais oui, ça me correspond, mais oui, bien sûr, tout ça, ça me parle. Et si je vous dis que dans un instant, on va parler d'amour, parce que c'est une véritable tempête chimique que d'être amoureux. C'est notre cerveau qui est en ébullition. On va se retrouver dans un instant. On se fera une petite salade fatouche aussi, histoire de redescendre un petit peu.
Non, mais elle est bonne. Vous avez déjà goûté la salade fatouche ou pas?
Non, je sais pas. Vous ne me parlez que de ça.
J'adore cette salade. Elle est bonne pour la santé aussi, en plus.
Ah bah oui, parce qu'on est là aussi pour parler de la santé et du bien-être de ceux qui nous écoutent. On se retrouve dans un instant sur l'antenne d'RTL.
Jusqu'à 10h, ça va beaucoup mieux sur RTL.
J'en ai marre de rêver de vous, j'en ai marre de parler de vous, j'en peux plus de ne penser qu'à vous. J'en ai connu des plus forts que vous, j'en ai connu des plus beaux que vous, j'en ai connu, mais ils n'étaient pas vous. J'en rirai dans un mois, dans un an, j'en rirai si vous êtes à l'écran. Évidemment, j'entends d'ici votre rire d'argent qui scintille.
C'est la jolie chanson de Jean et c'était Jeanne Chéral sur RTL.
RTL vous accompagne tout l'été.
RTL, la bande originale de votre été.
7h. Oh. 7h02. Oh. 7h03.
Bonjour, la météo.
Ne changez pas vos habitudes. Allumez Radio Player. Radio Player, les radios françaises, les web radios et les podcasts gratuitement et sans inscription. Téléchargez l'application sur votre mobile. Retrouvez aussi Radio Player dans vos voitures, enceintes et TV connectées.
Morgane et Arnaud, œnologues.
Pour les desserts d'été, il existe une boisson alcoolisée.
Différente.
Légère en alcool, 2 à 6 degrés.
Mais très fruitée.
Douce.
Mais rafraîchissante.
Alors, une idée?
Cette boisson, c'est un cidre.
Au dessert, servir le cidre bien frais.
Cidre de France, naturellement différent.
Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool.
Jean-Alphonse Richard sur RTL.
L'heure du crime.
Ce soir, dans l'heure du crime, l'affaire Léopold Storm. À Bruxelles, ses parents, sa sœur assassinés dans le magasin familial. Un massacre. Seul rescapé. Il n'était pas là. Les policiers ont des doutes. Le jeune garçon est-il un orphelin dans le malheur ou un comédien machiavélique? Léopold Storm, l'heure du crime. Ce soir, 21h sur RTL.
L'heure du crime, c'est l'émission fait divers la plus écoutée de France. Ça va beaucoup mieux sur RTL.
Avec Jimmy Mohamed et Flavie Flamand.
Mais qu'est-ce qu'on est bien avec vous sur l'antenne d'RTL de 9h15 à 10h. Merci pour votre fidélité. Vous êtes très nombreux à nous parler de cette émission. Vous, quand vous vous promenez,
super retour.
Jimmy, quand vous allez comme ça chez des patients.
Les gens grave cool, qu'il y a une bonne ambiance, qu'on apprend des choses, que vous êtes très sympa, Flavie.
Mais vous aussi, bien Jimmy. Exactement. Non, mais c'est vrai, c'est super. Donc votre fidélité nous honore et c'est reparti pour un tour avec la suite du dossier de la semaine. toujours en compagnie donc de Sylvie Chocron, qui est neuropsychologue, directrice de recherche au CNRS et à l'Université de Paris, qui nous raconte des choses absolument passionnantes sur le cerveau et autrice du livre « Plongez dans votre cerveau » aux éditions Les Presses de la Cité. On va parler d'amour, Jimmy.
Oui, parce que on vous le dites dans votre livre, il y a une véritable tempête chimique dans le cerveau de deux personnes amoureuses.
Mais c'est vrai, c'est la tempête partout, moi.
Que dans le cerveau.
C'est dans le cœur, c'est partout.
Mais vous avez raison de mettre un peu de romantisme là-dedans.
Ah oui, je pense à
dire que le coup de foudre, c'est une tempête chimique dans le cerveau, c'est pas top non plus.
Non,
mais ça
bouleverse tout, quoi. C'est un
exactement. Et donc le fait est que quand vous tombez amoureux, quand vous avez un coup de foudre, il y a une libération de plein d'hormones. Donc d'abord l'ocytocine, parce que c'est l'hormone de l'attachement, c'est l'hormone du lien, mais aussi évidemment la dopamine, parce que c'est l'hormone du plaisir, la sérotonine, parce que c'est l'hormone du bonheur, et puis aussi de l'adrénaline, parce que des fois, enfin, vous vous sentez plein d'énergie, des fois même un peu de cortisol, parce que ça peut être un peu stressant. Ouais. Et donc, en fait, toutes ces hormones vont contribuer à vous mettre dans l'état dans lequel vous êtes quand vous tombez amoureux.
Donc, c'est un feu d'artifice dans
le cerveau. Un feu d'artifice, exactement.
Alors, qui forcément, j'imagine, aussi a un impact comme ça sur le reste. Mais ça, c'est le coup de foudre après l'attachement.
Alors, figurez-vous...
Sur l'amitié tout à l'heure,
c'est avec le temps. Alors, figurez-vous qu'on a montré que les couples qui durent sont finalement des personnes, des partenaires, pour qui le niveau d'ocytocine, donc cette hormone de l'attachement, reste aussi élevé après 10 ans, 20 ans, 30 ans, qu'il n'était au stade initial de la relation. Et donc, on pourrait presque doser le niveau d'ocytocine et savoir finalement où on en est de la relation.
Ocytocine qui serait aussi l'hormone de la fidélité.
Exactement. Et donc, ça, c'est très intéressant parce que Flavie, figurez-vous qu'il y a des hormones de la fidélité.
Ah oui, c'est dingue ça.
Et donc, il y a une expérience qui a consisté à vaporiser un spray comme des gouttes nasales d'ocytocine à des hommes. Et on s'est rendu compte que quand ces hommes ont ce spray à l'ocytocine, ils regardent beaucoup moins les jeunes femmes qui passent.
Et l'inverse est vrai, j'imagine.
Et ils sont beaucoup.
Ça vaut pour les femmes aussi.
Ça a été fait chez les hommes.
D'accord.
Et donc ça, c'est pour l'ocytocine. Mais il y a une autre hormone qui est la vasopressine. Et là, l'expérience aussi, elle est amusante. On a des animaux qui s'appellent les campagnols.
Oui,
qui sont des petits rongeurs. Voilà, des petits rongeurs. Et il y a les campagnols des campagnes et ceux des forêts, qui sont sauvages. Et donc, en fait, les campagnols sauvages, ils ont un taux de vasopressine très bas. Et ils sont pas du tout fidèles, pas du tout fiables. Ils abandonnent leurs compagnes, leurs enfants, etc. Et les campagnols, au contraire des campagnes, qui sont, eux, très fiables, très stables, qui élèvent leurs enfants, qui sont monogames, ils ont un taux de vasopressine beaucoup plus élevé. Et on s'est rendu compte, du coup, que cette hormone, c'était une hormone de la fidélité.
Incroyable,
incroyable.
Peut-être qu'un jour on aura tous des fioles. On se prendra tous les matins notre.
On se fera des supplémentations.
Des supplémentations d'hormones. Oh là là.
En cachette.
Dans quel monde allons-nous ? Il y a quelque chose qui est très joli aussi, c'est que vous décortiquez le cerveau maternel, parce que en fait, et ça, alors vous l'avez vécu. Enfin, quand on est maman, je trouve qu'on est dans un bouleversement qui est encore plus puissant, je trouve, que l'amour pour un homme ou pour une femme, mais il y a quelque chose qui se passe dans la tête et qui, pour le coup, ne change jamais. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? Il y a un avant et un après la maternité.
Exactement. Et ce dont vous avez dû faire l'expérience, c'est que vous ressentez ce que ressent votre bébé, que vous ne faites qu'un avec lui. D'ailleurs, toutes les théories psychologiques parlent de symbiose. Mmh. Finalement, c'est pas une vue de l'esprit, parce que dans le cerveau, des femmes qui deviennent des mamans, pendant la grossesse, probablement sous la libération d'œstradiol, très importante au troisième trimestre, il y a une petite région cérébrale qui se surspécialise dans le cerveau des mamans, qui est la région qui permet de se mettre à la place de l'autre et de ressentir ce dont l'autre a besoin.
C'est où ça ?
C'est au carrefour entre notre cortex pariétal, notre cortex temporal, notre cortex frontal. Donc on a une petite région qui est la région qui permet de prendre la perspective d'autrui, de ressentir ce qu'il ressent. C'est la base de l'empathie, mais c'est au-delà de l'empathie. Et donc, ce qui est fou, c'est que chez les femmes qui vont devenir mères, on a cette spécialisation, cette petite région dans le cerveau qui va perdurer jusqu'à la mort.
Ouais, c'est ça.
Et qui va être d'autant plus importante que la femme a eu des enfants. Et donc, il y a un vrai lien entre la maternité et la spécialisation du cerveau. C'est sans doute ce qui a été mis au point dans l'évolution pour que les mamans, parce que ça n'existe pas que chez les hommes, ça existe chez tous les mammifères, c'est sans doute ce qui prémunit les mamans d'attaquer leur bébé ou de ne pas s'en occuper pour la survie de l'espèce. Et donc, en termes d'évolution, c'est extrêmement important.
C'est passionnant. Et vous dites dans votre livre que les hommes ne sont pas en reste.
Oui, je suis
eux aussi, non. En fonction de leurs émotions. Ça a aussi une influence, là, c'est dans l'autre sens, sur le développement moteur, enfin, cérébral du bébé.
Exactement. Et donc là, je rassure non seulement les mamans qui ne seraient pas les mères biologiques de leur enfant, mais aussi les papas. Effectivement, la maternité, de manière générale, même quand on n'a pas porté son bébé, ou la paternité, va, elle aussi, moduler le niveau hormonal dans le cerveau du papa, mais aussi modifier le cerveau des enfants. Et on sait maintenant que la qualité de la relation entre le père et l'enfant modifie le cerveau de l'enfant.
Un petit peu comme la longueur d'onde dont
exactement.
On parlait tout à l'heure.
Mais donc,
finalement,
morphologiquement, le cerveau des enfants est sensible à la qualité de la relation avec le père.
Et ce qui est passionnant, c'est qu'on a montré, par exemple, chez des mamans qui adoptent un enfant, qu'il serait possible d'induire l'allaitement.
Ouais.
En fait, normalement, si vous n'avez pas accouché, vous ne produisez pas d'hormones, notamment d'ocytocine, qui favorisent l'allaitement. Mais chez des mamans qui ont adopté un enfant, en stimulant par la simple pensée de se dire « je suis mère désormais, exactement, même si ce n'est pas mon enfant biologique », elles se mettent à pouvoir avoir du lait et allaiter, preuve que notre cerveau est vraiment bouleversé.
Preuve que notre cerveau, surtout, guide tous nos comportements et qu'il n'y a pas que la biologie. Il y a aussi toute l'influence de l'environnement, de la conviction, etc.
Il y a des comportements, vous étiez en train d'employer ce terme, des comportements qui parfois peuvent être décevants dans la vie, et notamment le mensonge. Est-ce que les menteurs ont un cerveau différent des personnalités peut-être plus droites ou plus honnêtes? Vous dites qu'en fait, quand on fait un IRM, on peut repérer un menteur.
Alors, je vais peut-être vous décevoir, mais mentir, c'est une tâche éminemment intellectuelle,
ouais, c'est
éminemment complexe, mais très. D'abord, il faut être créatif, et on sait que la créativité, c'est très lié à l'intelligence. Mmh. Il faut produire, et puis il faut produire le mensonge en temps réel. Mmh. Donc ça demande une mémoire de travail extrêmement importante, de l'attention, parce qu'il ne faut pas se recouper, il faut mémoriser ce qu'on a dit, il ne faut pas se prendre les pieds dans l'histoire qu'on a inventée. Il faut se souvenir de quel mensonge on a dit à chaque personne, parce qu'il y a aussi des menteurs professionnels qui vont raconter des choses différentes à chaque personne. Et donc, effectivement, mentir met en jeu toute une série de régions cérébrales. Notre cortex frontal, notre cortex temporal, notre cortex pariétal. Et donc, effectivement, si on regarde le cerveau d'un menteur en action, on va voir aussi des activités dans les deux hémisphères.
Bah oui, c'est ça, j'imagine.
Parce qu'il y a à la fois des activations, des inhibitions, des connexions entre toutes les régions pour pouvoir construire et maintenir le mensonge en mémoire. Donc oui, c'est une tâche qu'on pourrait aller repérer. Maintenant, on ne va pas conseiller de faire des IRM à des juges,
évidemment,
pour savoir si quelqu'un ment ou pas.
Oui,
parce
et puis le détecteur de mensonge.
J'ai
tout le blabla.
Voilà.
Oui, bien sûr. Mais on voit vraiment les régions s'éveiller, s'allumer. Comment ça se passe, en fait?
Oui, vous voyez des activités cérébrales. C'est-à-dire, si vous mettez un sujet dans l'IRM fonctionnel et que vous lui demandez soit de raconter une histoire vraie, soit de mentir en ligne, oui, vous allez voir une activité cérébrale particulière quand il est en train de construire le mensonge.
Ah, c'est passionnant.
Et vous sentez, là, mon activité cérébrale
qui dit
qu'on vous garde un petit peu parce qu'on a encore des questions à vous poser. Vous voulez
avec
bien rester
plaisir.
Avec nous, on est d'accord. Hein. Rien que le fait de sourire, ça
rend
peut
heureux.
Rendre heureux.
Et qu'on peut travailler son optimisme aussi.
Voilà. Mais je vais y répondre à tout ça.
On se retrouve dans un instant sur l'antenne d'RTL.
Le docteur Jimmy Mohamed et Flavie Flamand attendent vos questions par email à l'adresse santé@rtl.fr.
What's in that new world order? Marco, Polo.
C'est Doechi sur RTL. C'est une américaine qui sera en concert le 21 août prochain au festival Rock en scène à Saint-Cloud. Ne la ratez pas.
RTL vous accompagne tout l'été.
RTL, la bande son de votre été.
RTL Matin
avec Vincent Derosier.
Je vous retrouve demain pour 3 heures d'infos, des journaux toutes les demi-heures, les invités qui comptent parce que l'actu ne s'arrête pas l'été. Et puis, on a tout prévu pour vous chouchouter, des conseils santé pour décompresser et bien manger, des reportages dans les plus beaux coins de France avec nos paysages qui se transforment avec le changement climatique. Enfin, un an après le succès planétaire des Jeux Olympiques de Paris, on a retrouvé les champions qui ont fait les Jeux. Vous avez le programme, alors à demain dès 6h sur RTL.
Lidl, réélu encore et encore, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie supermarché.
Allô ? Bon, alors t'as vu le prix du croissant cookie chez Lidl ? C'est fou !
Ah, j'ai vu, patron. En ce moment, il est à 1,29€. Un croissant avec du cookie, c'est inédit chez Lidl.
On est foutu, hein ?
Votre supermarché Lidl est ouvert tous les jours, même le dimanche. Horaire sur Lidl.fr. 80 grammes, 16,13€ le kilo, cuit sur place dans les supermarchés disposant d'un point chaud et ayant ce produit dans leur gamme. Offre valable jusqu'à épuisement des stocks. Plus d'informations sur Lidl.fr. Pour votre santé, bougez plus.
It's high noon in the West at Southern California's Big FM.
Pendant tout l'été, juillet et août, revivez sur RTL les Good Old 60s comme sur les plages de Californie. Retrouvez-moi les vendredis, samedis et dimanches soirs en Beach Party sur RTL de 23h à minuit.
I am Wolfman Jack and you listen to George Lang on RTL.
9h15, 10h.
Ça va beaucoup mieux sur RTL avec le docteur Jimmy Mohamed et Flavie Flamand.
Ah, je sais pas vous, mais alors nous, nos émotions, nos hormones, notre cerveau, là, on est au taquet grâce à notre invité Sylvie Chocron qu'on a décidé de garder avec nous. Sylvie Chocron, est-ce que vous connaissez la salade Fatouche ? Parce que c'est quand même la salade star de la matinée, et grâce à qui ? Grâce au docteur Jimmy Mohamed.
Jusqu'à 10h, ça va beaucoup mieux sur RTL.
Non mais comment ça, qu'est-ce que j'apprends ? Que la salade Fatouche est un jardin méditerranéen dans mon assiette, Jimmy ?
Complètement, c'est pour ça que j'ai décidé d'en faire l'aliment de la semaine. Alors on connaît la salade niçoise, la salade grecque, mais il y a aussi la salade Fatouche, qui est une salade qu'on va qualifier de libanaise, ou qu'on peut trouver notamment au Moyen-Orient, et notamment en Syrie. Alors c'est très simple, c'est de la laitue romaine, des tomates, des concombres, des radis, du poivron, des oignons, du persil, de la menthe, un pain pita qu'on va griller, ah, qu'on va faire, on va prendre de façon frite. Pour l'assaisonnement, de l'huile d'olive, un peu du citron, du vinaigre de grenade, de l'ail, du sumac. Le sumac, c'est une petite épice qui est rouge, typique du Moyen-Orient, du sel, du poivre et basta. Alors dit comme ça,
c'est tout simple. Hein.
C'est tout simple. Mais c'est super bon pour la santé.
Alors, vous allez nous expliquer pourquoi.
Parce qu'en fait, la laitue, elle contient des fibres, de la vitamine A, qui est bon pour la digestion et la peau, les tomates qui contiennent du lycopène, le concombre qui est hydratant, faible en calories et qui contient notamment du potassium, le radis riche en soufre et qui favorise la digestion, le poivron, c'est de la vitamine C, les oignons, c'est un anti-inflammatoire naturel qu'on appelle la quercétine, le persil qui contient de la vitamine K,
c'est bon,
bon pour les os, de la menthe fraîche, bon pour les ballonnements, et puis, sans parler de l'huile d'olive, qui est peut-être la meilleure huile du monde. Donc, en clair, c'est ce que je voulais vous faire comprendre derrière, c'est de se dire, souvent on parle d'un aliment de la semaine, mais qu'en réalité on mange toujours à peu près les mêmes types de salades, on mange toujours les mêmes entrées, les mêmes plats, les mêmes desserts. Or, si on veut avoir un microbiote, c'est-à-dire la flore intestinale le plus diversifiée possible, il faut un peu changer notre alimentation. Donc essayez d'aller piocher dans différentes salades, que ce soit la salade grecque,
la salade fatouche, la salade niçoise. Plus vous allez changer de salade, plus vous allez enrichir votre microbiote, vous allez faire le plein de nutriments et de vitamines, et très certainement que vous allez pouvoir éloigner de nombreuses maladies, plutôt que se dire, on avait consacré une émission en complément alimentaire,
oui,
je vais prendre un peu de vitamine C, je vais prendre un peu de magnésium, je vais prendre un peu d'oméga 3, vous n'allez pas vous en sortir. Et qu'en réalité, la nature nous offre tout ce dont on a besoin et qu'il suffit de faire des petites salades voilà, du monde. En tout cas, la salade fatouche, elle est très bonne et je vous inviterai un jour à manger une salade fatouche.
Mais avec grand plaisir, vous me la ferez même. La salade,
oui, c'est même mieux.
Parce que vous nous vendez si bien sur l'antenne. Mais c'est super intéressant parce que l'alimentation, elle a un impact aussi sur la qualité de notre cerveau, Sylvie Chocron.
Bien sûr, et tous les aliments qu'on a listés là ont un effet sur notre cerveau. On sait bien qu'il nous faut des bonnes huiles, des bons oméga 3, qu'il nous faut des œufs parce que c'est un précurseur de la sérotonine, qu'il nous faut des aliments colorés, des petites baies, des cassis, des myrtilles, des fraises, des framboises, parce que tout ça, ce sont de très bons antioxydants, donc ça évite le vieillissement de notre cerveau, et ainsi de suite. Donc oui, tout ce qui est bon pour le corps et pour le cœur est bon pour le cerveau, donc c'est pas difficile.
On parlait tout à l'heure d'imagerie médicale, et vous nous disiez, ben voilà, quand on voit un menteur en action, finalement, on voit que tout s'allume, et c'est clair, et s'éteint, et s'allume dans son cerveau. On peut voir aussi un cerveau nourri à la malbouffe. Enfin, je sais pas comment expliquer, vous voyez ce que
non, on verrait pas d'activité ou d'absence d'activité particulière. Par contre, de manière indirecte, ça va être, oui, des personnes qui vont peut-être avoir du mal à faire attention. Par exemple, on sait que les sucres rapides, c'est très mauvais pour l'attention. Donc, de manière indirecte, vous allez pouvoir voir un cerveau qui ne s'active pas peut-être de manière optimale dans certaines tâches, mais vous pourrez pas dire...
Quand même que junk food, produits ultra transformés, augmente le risque de troubles dépressifs, de troubles du sommeil, d'anxiété. Donc, en fait, cette alimentation, là, on parle...
Elle est délétère aussi.
Ça peut être bénéfique ou délétère et que l'idée, c'est qu'on fait la morale à personne, mais que derrière tout ça, notre alimentation, elle conditionne quasiment toutes les fonctions de notre organisme, dont notamment le fonctionnement du cerveau et de nos émotions.
Voilà, et c'est pas parce qu'on le voit pas à l'imagerie que ça n'a pas d'effet. On va s'en rendre compte, comme le disait Jimmy, sur notre morale ou sur notre efficience cognitive.
C'est vrai qu'un sourire, ça peut suffire à rendre heureux, ça j'ai pas trop de doute, mais en plus à prendre soin de notre cerveau.
Alors en fait, ce qui est très intéressant, c'est que Darwin déjà avait imaginé que pour ressentir pleinement les émotions, il fallait les produire. C'est-à-dire que si vous souriez, finalement le feedback que vous avez, la stimulation qui correspond aux contractions de vos masséters, de vos joues, vraiment la forme du sourire va influencer la façon dont vous ressentez l'émotion. Et donc ensuite, il y a eu des expériences qui ont essayé de mesurer ça, et on a mis, alors ça va vous faire rigoler, on a mis un crayon dans la bouche de certains sujets pour les empêcher de sourire. Et pendant ce temps-là, on leur demandait d'évaluer si une blague était drôle ou pas, ou une vidéo était drôle ou pas. Et on s'est rendu compte que si on vous empêche de sourire, ben vous ressentez beaucoup moins bien l'émotion positive que si vous avez la possibilité de sourire. Du coup, il y a eu plein d'autres expériences qui ont été faites. Et par exemple, on s'est rendu compte que tous les mots où on utilise des « i », par exemple, en français, c'est-à-dire on étire les lèvres, la bouche, sont des mots qui sont plutôt des mots positifs. Mmh. Oui, chérie, même en anglais, sweetie, dear, etc. Alors que les mots où on fait un rond avec la bouche, comme un « o », c'est associé à stop, à no, à des mots beaucoup plus rudes. Et donc, les chercheurs ont essayé de tester le lien entre le langage et les émotions, et ils se sont rendus compte que si, effectivement, on vous met dans des émotions positives, vous allez produire beaucoup plus de mots avec des « i » qui correspondent à la bouche quand on sourit, plutôt que si on vous met dans un contexte négatif où là, vous allez produire plus de mots avec des « o ». Donc, réellement, il y aurait un lien entre la phonétique, entre les sons des mots et les expressions qu'ils véhiculent.
Ah, c'est génial. Et puis, c'est comme quand on fréquente aussi des gens qui nous sourient. Enfin, un sourire, c'est ça qui est génial. C'est que moi, de temps en temps, quand je suis un peu déprimée, je sors dans la rue, je donne un sourire, on me répond par un sourire et ça va aller mieux. Alors que parfois, on fréquente des gens qui nous envoient des ondes un peu négatives et ça nous rend un peu dépressifs.
On les absorbe et
vous avez remarqué, sourire, c'est précieux. Et alors, Flavie, du coup, juste une précision, on conseille aux gens qui auraient envie de se faire faire du Botox ou de la chirurgie esthétique de faire très attention. Parce que effectivement, quand vous avez de la chirurgie esthétique ou un lifting, et ben du coup vous pouvez moins exprimer vos émotions et du coup vous les ressentez moins.
Ah, ça va pas le faire.
Non,
faut pas être trop figé, quoi. Bien sûr que non. On a le temps d'une dernière petite idée sur le cerveau.
On peut au quotidien booster son optimisme.
On peut tout à fait booster son optimisme. Donc là, c'est intéressant parce que moi, je suis pas du tout, je viens pas du tout du développement personnel et de la psychologie positive, etc. Mais pour le coup, dans le domaine de l'optimisme, on a montré que si on propose à des gens d'écrire des souvenirs joyeux ou des événements heureux qu'ils ont vécu pendant plusieurs semaines, véritablement, ils vont être d'humeur beaucoup plus positive, beaucoup plus optimiste, et que finalement, entretenir la mémoire des événements heureux rend plus optimiste. Et donc, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de gêne de l'optimisme ou quoi que ce soit. Véritablement, si dans notre mémoire, on donne plus de poids aux événements positifs, on dope une petite région dans notre cerveau qui s'appelle le putamen et qui va nous permettre de voir la vie en rose. Donc oui, c'est important.
Il faut doper le putamen, vous avez compris.
Merci beaucoup, Sylvie Chocron.
On va parler du sommeil maintenant, rapidement, le vrai du faux. La mélatonine peut-elle être dangereuse? Oh, ah non, docteur.
Non, c'est faux, la mélatonine n'est pas dangereuse. C'est une hormone qu'on produit de façon naturelle le soir. On parle d'hormone de la nuit qui permet notamment l'endormissement, mais pas que. La mélatonine ne se cantonne pas, notamment au sommeil, elle dicte nos rythmes biologiques. J'avais reçu de la part du service courrier des auditeurs RTL une question de Marie-Yolande.
Exactement.
Qui m'a demandé, mais comment prendre de la mélatonine sous forme de spray? Alors, prenez la mélatonine qui vous convient le mieux. On l'achète à la pharmacie, sans ordonnance, 1,9 mg au maximum, après c'est sur prescription médicale, sous forme de spray, de comprimé qu'on avale ou sous la langue, peu importe, la seule chose c'est que ça agit plus ou moins rapidement.
Voilà, le spray c'est immédiat.
Oui, parce que ça se met au niveau de la langue et il y a une petite veine qui mène directement à la circulation sanguine et dans le cœur, et donc on dort beaucoup plus vite puisque la mélatonine est absorbée plus rapidement. L'idéal c'est de prendre cette mélatonine 30 minutes avant l'heure du coucher, utile quand il y a un grand décalage horaire, mais quand vous avez du mal à vous endormir, ça peut vous aider. En revanche, si vous vous réveillez en plein milieu de la nuit, que vous avez des troubles du sommeil, la mélatonine ne va pas tout résoudre dans ces cas-là. Direction le médecin du sommeil pour faire un enregistrement et trouver une solution à votre problème. Mais non, la mélatonine, aucun problème, ni effet secondaire, ni dépendance, ni interaction médicamenteuse.
Pas d'inquiétude, Marie-Yolande. Merci beaucoup Sylvie Chocron d'avoir répondu.